Bonjour, c'est le moment de la prédication. Les enfants sont appelés à aller en face. Il y aura des ateliers pour les enfants. Donc les enfants qui viennent de recevoir leur cadeau peuvent aller traverser la cour et aller dans l'ancienne école et suivre les charmantes monitrices. Je me rehausse et voilà, on va pouvoir commencer. J'attends que les enfants sortent. Parce que j'ai une question un petit peu spéciale et il ne faut pas forcément que les enfants l'écoutent. Alors donc j'attends un petit peu qu'ils partent avant de la poser. Surtout les plus petits. Parce que la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est est-ce que vous croyez au Père Noël? Jean-Pierre et Marie-Chantal viennent de répondre oui. Ouais. Vous avez quel âge déjà? Ah, faut pas le dire, d'accord, ok. Vous avez un tout petit peu plus de 8 ans. Un tout petit peu plus, ouais, d'accord. C'est bizarre hein, de poser la question, est-ce que vous croyez au Père Noël à des adultes hein? Mais je le fais quand même parce que c'est encore possible d'y croire après l'enfance. D'où l'expression qu'on entend parfois quand on est un peu naïf sur une situation. Il y a quelqu'un qui dit « tu crois encore au Père Noël ?» Voilà, et en fait, ça veut dire « t'es un peu bête finalement ». Et du coup, bah peut-être que il est possible de croire encore au Père Noël quand on est un adulte. Et on va en parler ce matin. Et nous allons lire un passage dans la lettre aux Hébreux. Cette lettre est une lettre qui était destinée à des chrétiens, sûrement des chrétiens d'origine juive, c'est pour ça qu'on dit la lettre aux Hébreux, et ces chrétiens vivaient des moments difficiles à cause de leur foi. Et puisqu'ils vivaient des moments difficiles à cause de leur foi en Jésus, ils étaient tentés de tout laisser tomber. Et donc l'auteur de la lettre aux Hébreux prend beaucoup d'exemples de l'Ancien Testament pour leur montrer que la foi en Jésus mérite d'être vécue, que c'est une foi vraiment merveilleuse. Et dans la section que nous allons lire, nous allons avoir droit à une comparaison entre les Hébreux dans le désert, qui sont sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et les chrétiens dans le monde, qui sont sous la conduite de Jésus. Donc nous allons lire dans Hébreux 3, à partir du verset 5. Et normalement, ça va pouvoir s'afficher sur l'écran, enfin sur l'écran, c'est-à-dire le mur. Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. C'est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'il m'ait vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés au Christ, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Et cela aussi longtemps qu'il est écrit, Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. » Et là, je saute. Je continue. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment « Ils n'entreront pas dans mon repos » N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien. Car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Et là, je saute un tout petit peu et je vais au verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je vous invite à prier. Merci Père parce que tu nous enseignes. Merci parce que nous avons des tas d'histoires dans ta parole qui peuvent nous servir d'exemple ou de contre-exemple. Et merci parce que tu t'es servi de toutes ces personnes pour nous faire grandir aujourd'hui. Alors nous te prions pendant ce moment de méditation de nous émerveiller, d'illuminer nos cœurs, d'illuminer nos cerveaux. Que Seigneur nous puissions à nouveau grandir en toi. Que toute la gloire te revienne. Amen. Vous avez vu le thème de ce passage que nous avons lu. Et vous avez vu la comparaison entre les Hébreux dans le désert et ces chrétiens. Et l'auteur de l'Épître prend comme contre-exemple les Hébreux. Et fait appel à un souvenir que les destinataires de l'Épître aux Hébreux avaient. Et je vous rappelle que les destinataires des lettres du Nouveau Testament n'avaient que l'Ancien Testament, donc les apôtres et tous les auteurs, donc tous les auteurs des lettres du Nouveau Testament devaient se servir des exemples de l'Ancien Testament. Et peut-être que vous n'avez pas, comme les Hébreux, en tête toutes ces histoires des Hébreux dans le désert, et peut-être qu'il faut vous rafraîchir la mémoire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux leur raconte les nombreuses désobéissances des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte à grands coups de miracle. Il a forcé Pharaon à les libérer, à les laisser partir vers une terre promise, une terre ruisselant de lait et de miel. C'est la grande histoire de l'Exode. Et on se dit, quand Dieu les libère, que ça va bien se passer, que Dieu est très puissant et qu'il leur promet quelque chose d'encore mieux et que voilà, ils vont suivre Moïse jusqu'à cette terre. Mais on s'aperçoit pendant le récit que ça se passe mal. Très vite, les Israélites, les Hébreux vont avoir de mauvaises réactions. Arrivés dans le désert, sous la conduite de Moïse, ils vont se plaindre, ils vont râler. Et ça ne va pas s'arrêter pendant 40 ans. Ils vont toujours dire « on a faim, on a soif ». Et ils vont avoir un refrain « on était mieux en Égypte ». on était mieux avant. On était mieux quand on était dans l'esclavage. Une réaction complètement stupide. Quand on voit qu'ils étaient esclaves, et quand on voit qu'ils avaient crié à l'Éternel pour qu'il les libère. Mais une fois qu'il les a libérés, ils se mettent à lorgner en arrière. Ils se mettent à regretter. Alors, puisqu'ils râlent parce qu'ils ont faim et parce qu'ils ont soif, Dieu, en plein désert, leur donne de l'eau. À partir d'un rocher, il dit à Moïse de taper sur le rocher, il y a de l'eau qui jaillit du rocher. Ils ont à boire, donc ils sont contents. Ils ont faim, Dieu leur donne la manne. Il leur donne cette espèce de substance, ces espèces de granules qu'ils peuvent manger et qui sont doux comme du miel. Donc c'est vachement bon, la manne, apparemment. Et il leur donne aussi des cailles sauvages pour qu'ils aient un peu de viande. Donc Dieu prend soin d'eux dans le désert. Mais ils trouvent encore moyen de râler. Ils râlent et ils râlent toujours. Quand Dieu veut faire alliance avec eux, ils voient que Dieu se manifeste de manière impressionnante et ils disent à Moïse, va tout seul sur la montagne faire alliance avec Dieu. Nous, on ne veut pas y aller parce qu'on a trop peur de l'Éternel. Moïse monte sur la montagne avec Dieu. Ça prend un peu trop de temps. Que font les Israélites? Ils se fabriquent une idole, ils se fabriquent un veau d'or, ils sont infidèles. Tout ça parce que Moïse tarde un petit peu sur la montagne. Encore une désobéissance. Et enfin, quand Moïse et le peuple se retrouvent au bord de la terre promise, il envoie des espions pour inspecter la terre promise, pour être sûr que cette terre est ruisselante de lait et de miel. Et sur tous les espions qui vont inspecter cette terre promise, tous les espions, quand ils reviennent, disent « bah oui, c'est une terre ruisselante de lait et de miel, elle est vraiment très très bien. Par contre, il y a des peuples sur cette terre. Et ces peuples, ils font un peu peur. Les villes qu'on doit prendre, elles sont fortifiées. Et même parmi ces peuples, il y a des géants. Il y a des peuples, il y a des gens qui sont très très grands. Et on va se faire trucider. » Les espions démoralisent le peuple, presque tous les espions. Il y a deux espions qui encouragent le peuple, qui disent « Mais vous inquiétez pas, bien sûr, il y a des peuples nombreux, il y a des villes fortifiées, mais Dieu est fort, Dieu nous a libérés d'Égypte et il va faire des miracles et on va pouvoir entrer dans ce pays promis. » Mais le peuple décide de croire les espions pessimistes. Et le peuple veut lapider Moïse et Aaron. Et à cause de cela, l'Éternel va dire, ce peuple est infidèle, il s'est endurci et ils n'entreront pas dans mon repos, ils n'entreront pas en terre promise. Il va leur donner droit à un petit séjour touristique de 40 ans dans le désert, pour qu'ils meurent dans le désert. Et il leur dit, c'est vos enfants qui vont entrer dans ce pays promis et pas vous. Voilà à quoi fait allusion l'Épître aux Hébreux, à cette désobéissance conjoncturelle et structurelle, en fait, surtout structurelle, du peuple de Dieu, du peuple que Dieu avait libéré. Pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ça à ses chrétiens? C'est parce qu'il veut faire un parallèle. Il veut leur dire, 16 siècles après la libération d'Égypte, vous, chrétiens, vous avez été libérés de l'emprise du péché par Jésus, le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu vous assure un repos éternel auprès de lui. Un repos qui a déjà commencé dès votre conversion. Vous goûtez déjà sur terre à la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, à la paix intérieure d'être pardonné, d'être aimé par votre Père céleste. Vous goûtez à la joie de le servir en faisant avancer son royaume sur terre. Voilà ce qu'il leur dit. Vous aussi, vous avez cette espérance de passer l'éternité avec le Seigneur Jésus dans un bonheur inimaginable. Beaucoup mieux que la terre ruisselant de lait et de miel, un autre pays promis. L'éternité avec Jésus, le paradis. Alors voilà ce qu'il leur dit. Devant la persécution que vous subissez, vous avez le choix entre tenir ferme et entrer dans ce repos de Dieu, ou bien lui désobéir en abandonnant carrément la foi, ou bien en vivant votre foi de manière moins choquante pour les non-chrétiens, c'est-à-dire en faisant des concessions. Voilà le choix qu'avaient ces chrétiens du 1er siècle devant les persécutions devant lesquelles ils devaient faire face. Le point crucial ici, c'est le manque de foi en Dieu. Et ce manque de foi conduit à sans cesse se plaindre de sa situation. Il conduit à perdre de vue ce que Dieu a fait, à perdre de vue ce qu'il a promis de faire, à ne plus persévérer et finalement à laisser tomber. Les Hébreux dans le désert ont forcé la main de Dieu en lui disant « Prouve-nous que tu es Dieu et fais le miracle que nous exigeons tout de suite. » C'est ce qu'ils ont fait quand ils ont exigé d'avoir à boire. Ils ont dit « Maintenant, on veut à boire tout de suite. » Dieu a dit à Moïse « Tape sur le rocher, il y a eu de l'eau. » Mais voici comment Dieu a interprété les choses. « Vous m'avez forcé la main, vous m'avez forcé à faire un miracle et ça, c'est un péché. » En gros, il fallait que Dieu leur obéisse. Ce n'était plus l'Éternel qui devait décider ce qui était bon pour eux, mais eux qui savaient mieux que le Dieu qui les avait sortis d'Égypte. Voilà leur péché. C'est exactement la définition du péché. Je décide moi-même ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais pour moi. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux s'appuie sur cette histoire et la parole du psaume 95 pour exhorter ses lecteurs à ne pas confondre leurs illusions, leurs fantasmes, avec la réalité. La réalité chrétienne promise par le Seigneur Jésus, c'est que les chrétiens vont être rejetés. Les chrétiens vont être vus comme des gens bizarres par leur entourage. Ils vont parfois souffrir de ne plus avoir le droit de faire un certain nombre de choses, souffrir de ne plus avoir le droit de faire comme tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils n'appartiennent plus à ce monde. Parce qu'ils sont déjà citoyens du royaume de Dieu qui a pour chef Jésus. Et Jésus, parce qu'il a sauvé son peuple en se sacrifiant pour lui, eh bien, son peuple lui fait une confiance aveugle. Un peu comme le peuple qui était obligé de suivre Moïse, qui lui-même était guidé par la nuée, par cette manifestation de l'Éternel. Jésus, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Si nous avons mis notre foi en lui, c'est sa parole qui doit nous guider. Et nous ne devons pas avoir le cœur endurci devant cette parole. Sinon, nous gâchons tout. Nous gâchons notre libération. Nous ne vivons plus ce repos de Dieu et nous nous rendons forcément profondément malheureux parce que nous nous éloignons de Dieu. Donc l'exhortation de ce passage, c'est entrer dans le repos de Dieu. Et entrer dans le repos de Dieu, c'est quoi ? C'est accepter la situation dans laquelle on est, même si elle est désagréable, parce qu'on sait que Dieu gère. Parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et surtout, le plus important, ce n'est pas nous, c'est lui. Quoi qu'il arrive, quelle que soit notre situation, nous avons pour mission de lui rendre gloire. Pas de nous regarder le nombril, de le regarder lui et de chercher à le servir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. On l'a chanté tout à l'heure et c'est des paroles de Jésus, du sermon sur la montagne. Et quand Jésus dit cela, toutes ces choses vous seront données en plus, il parle des besoins physiologiques de base. Jésus parle de la nourriture, parle du vêtement et il dit Ne vous inquiétez pas pour cela, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la nourriture, le vêtement, vous seront donnés en plus après cela. C'est ça, entrer dans le repos de Dieu. C'est se soucier de l'avancement de son royaume. Endurcir son cœur, qu'est-ce que c'est ? Endurcir son cœur, c'est avoir, comme on dit dans l'Ancien Testament, la nuque raide. C'est ce que Dieu dit des Israélites. Vous avez la nuque raide. C'est ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Mais le problème, quand on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Et que donc, de toute façon, le seul et vrai Dieu qui dirige l'univers va quand même réaliser sa volonté malgré nous. Et alors donc, même si nous courons après nos fantasmes, ils ne se réaliseront pas. Ou même s'ils se réalisent, ils seront remplacés par d'autres fantasmes. Parce que avoir des fantasmes, c'est quelque chose d'insatiable. Et du coup, quand on a le cœur endurci, parce que Dieu ne nous obéit pas, on peut avoir de la rancœur contre lui. Ou on peut avoir de la rancœur contre les autres. Parce que eux non plus ne nous obéissent pas. Et quand nous endurcissons notre cœur, nous devons faire face à nos désobéissances. Endurcir son cœur, lutter contre Dieu, c'est une lutte fatigante, une lutte perpétuelle et une lutte tellement fatigante. C'est vraiment le contraire d'entrer dans le repos de Dieu, qui est quelque chose de tellement agréable, quelque chose qui rend tellement serein, malgré les situations qui peuvent être difficiles. Notre Dieu est surprenant. Notre Dieu, on peut pas l'imaginer, il ne peut pas être sorti de l'imagination des hommes. Et Noël en est un bon exemple. Qui aurait pu imaginer que ce Dieu, trois fois saint, puisse intervenir dans notre monde sous la forme d'un petit enfant, puisse accepter de s'abaisser à ce point, de supporter la gestation de 9 mois dans le ventre d'une femme, d'accepter d'être un petit bébé qui va être sale, d'être un enfant qui va devoir apprendre. Comment imaginer cela ? Ce Dieu nous surprend tout le temps. Et il a surpris, même quand il a été plus grand, il a surpris les chefs religieux, les pharisiens, qui normalement voulaient être fidèles, connaissaient très très bien la loi de Moïse, ne voulaient pas être comme les Hébreux dans le désert. Mais même ces pharisiens, qui étaient si fidèles, ont rejeté Jésus parce qu'il n'était pas le Messie qu'ils attendaient. C'est difficile de faire face à des situations qui nous surprennent, des situations qui sont anormales. C'est difficile de rester fidèle à Dieu, de garder cette foi inébranlable dans ce Dieu alors que la situation ne nous est pas favorable. C'est difficile. Alors comment devons-nous réagir ? J'ai envie de dire que on peut se comparer avec les destinataires de la lettre aux Hébreux. Mais alors si on se compare, on peut dire qu'aujourd'hui, nous souffrons pas de la persécution, mais nous souffrons du confort. On a une autre souffrance. Nous souffrons du confort et des opportunités nombreuses que nous offre notre Occident riche et en paix. Nous n'avons pas peur de nous faire taper, mais nous sommes attirés par des choses qui ont l'air de briller plus que l'Évangile. Les chrétiens au premier siècle avaient peur de se faire taper. Nous, quand nous regardons la télé, quand nous regardons les gens autour de nous, nous avons l'impression qu'ils sont plus heureux que nous. Et nous avons l'impression que notre Évangile est fade, que notre Évangile ne vaut pas forcément le coup d'être vécu, et qu'en fait, ce serait peut-être plus facile de ne pas être chrétien. Qu'en fait, les gens autour de nous sont très heureux, sont très souriants. Apparemment, voilà, ils bénéficient d'une certaine richesse, d'un certain bien-être. Et qu'en fait, il n'y a pas tant de différence avec nous. Et qu'en fait, on se demande si continuer de croire en Jésus, ça vaut vraiment le coup. C'est ça la difficulté des chrétiens en Occident maintenant, je pense. Beaucoup plus que la persécution, comme si on était, je sais pas, en Corée du Nord, ou en Chine, ou ailleurs, où les chrétiens se font persécuter pour de vrai. Nous, on est tentés, plus que persécutés. Du coup, l'exhortation qu'on pourrait se faire, c'est ne soyons pas comme des enfants gâtés, ne réagissons pas comme des enfants gâtés. Les Hébreux, dans le désert, ont réagi comme des enfants gâtés. Ils avaient déjà bénéficié de beaucoup de bénédictions de Dieu. Mais ils ont réagi comme des enfants gâtés. Alors nous, ne faisons pas comme eux. Ne réagissons pas comme des enfants gâtés en croyant des choses que Dieu ne nous a jamais promises. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent « Voilà, il m'est arrivé un tas de pépins dans ma vie. Et j'en ai marre. J'en ai marre de lutter. Dieu est méchant avec moi. » J'ai subi des deuils, j'ai subi des maladies, et j'en ai marre, et j'ai envie de laisser tomber. Sauf que, quand on se dit ça, on oublie juste que Jésus ne nous a jamais promis le contraire. Jésus ne nous a jamais dit, si vous croyez en moi, si vous vous convertissez, vous ne serez plus jamais malade, vous ne connaîtrez plus de deuil, vous serez ultra riche, en gros ce sera la prospérité pour vous. Jésus ne nous a jamais promis cela. Il nous a même promis le contraire. Il nous a dit, si vous êtes mes disciples, vous allez souffrir. Or, parfois, nous oublions cela. Et nous nous décourageons en croyant que Dieu nous a promis la prospérité et le bien-être et des circonstances toujours favorables. Or, c'est faux. Les illusions que nous nous faisons peuvent causer des déceptions amères. Et ces déceptions amères ont poussé quelques-uns à être dégoûtés de la foi, à être dégoûtés de l'Église. Parfois, nous croyons qu'en fait, l'Église est un lieu, un peu le paradis sur terre, où il va jamais y avoir de problème, jamais y avoir de conflit, où tout va bien se passer, ça va être l'harmonie la plus absolue. Lisons les épîtres du Nouveau Testament et nous nous rendrons compte que ça n'a jamais été cela. Qu'en fait, l'Église, c'est un lieu où des gens à problème se causent des problèmes. Mais où la grâce de Dieu se manifeste, où le Saint-Esprit peut agir et doit agir. C'est un lieu où l'on progresse les uns avec les autres. Si nous nous faisons des illusions là-dessus, nous allons être déçus. Nous allons chercher ailleurs une autre église où ça va mieux se passer, et nous allons encore être déçus parce que c'est toujours la même chose. Troisième application que nous pouvons nous faire, c'est une question. Le message de l'Évangile nous sert-il à quelque chose? Est-ce que le message de l'Évangile a des conséquences pratiques dans notre vie? Et pour cela, vous pouvez faire un test. Relisez le sermon sur la montagne, évangile de Matthieu, chapitre 5 à 7. Et regardez ce que dit Jésus. Si quelqu'un te tape sur la joue droite, tends lui aussi la gauche. Aimez vos ennemis. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir, mais cherchez le royaume de Dieu. Regardez Matthieu 18 sur le pardon. Celui qui a fait du mal doit demander pardon. Celui à qui on a fait du mal doit pardonner. Si l'un ou l'autre ne fait pas ce qu'il doit faire par rapport au pardon, c'est qu'il n'a pas compris l'Évangile. Essayez d'appliquer cela. Appliquez cela. Sinon, l'Évangile ne vous sert à rien, n'a aucune application pratique dans votre vie. Dans ces passages, Jésus nous parle de ce repos en Dieu. Ce repos qui fait réagir de manière complètement décalée, complètement différente par rapport aux personnes de notre monde. C'est ça, être chrétien, c'est être différent de notre monde. Mais alors, pour notre témoignage, parce que les chrétiens doivent être des témoins de Jésus dans ce monde, si nous ne faisons pas tant de différence avec ceux qui nous entourent, comment témoigner efficacement si nous lorgnons sans arrêt vers le monde pécheur? Si nous nous disons « Ah, quand même, les non-chrétiens, ils ont plus de chance que moi. » Comment je fais pour rendre cet évangile attirant, pour témoigner de cet évangile autour de moi, si j'ai l'air malheureux avec cet évangile? Comment je fais? Eh bien, dernière exhortation, encourageons-nous, c'est ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, encourageons-nous aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui en Église, encourageons-nous, rappelons-nous les uns aux autres à quel point il est merveilleux d'appartenir à Jésus. Encourageons-nous. Encourageons-nous à continuer de vivre pour lui. Encourageons-nous à progresser les uns les autres, à ne pas laisser tomber. Encourageons-nous. Disons-nous les uns aux autres, tu as des dons. Tu peux servir dans cette Église. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens pas au monde. Tu peux changer. Tu peux progresser. Entrons ensemble dans ce repos de Dieu. Rappelons-nous de tout ce que Jésus a fait pour nous, de tout ce qu'il a promis de faire pour nous. Témoignons, témoignons-nous les uns aux autres de ce que Dieu a fait pour nous. Disons-le. Lisons la Bible. Citons la Bible. Vivons la Bible. Et retenons les leçons qu'elle nous donne. Entrez dans le repos de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez que Dieu est bon. Acceptez que Dieu est tout-puissant. Cessez de regarder à ce que vous avez ou à ce que vous n'avez pas et demandez à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez pour lui. Amen. Je vous invite à chanter le chant « Je n'ai que toi ».